Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sebastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
6h04, vendredi 6 mai. Bonne journée, bienvenue au 98.5 avec des prévisions météo intéressantes pour les prochains jours. D'abord aujourd'hui, c'est du soleil, quelques nuages, 15 degrés. Demain samedi, même scénario. Pour la fête des mères, même chose, donc du temps ensoleillé 17. Et même au début de la semaine prochaine, bien, ce sera au-dessus de 20 degrés pour culminer mercredi, jeudi, avec des températures de 27 degrés. Cependant, petit bémol, les nuits de la fin de semaine seront quand même assez fraîches, autour de 2-3 degrés. Parlons de la guerre en Ukraine, bien sûr. On va tout de suite établir le contact avec Tetiana Ogarkova, qui est journaliste. Elle est sur le terrain ce matin parce que, d'abord, bonjour Tetiana.
Bonjour.
Donc, vous accompagnez un convoi d'aide humanitaire actuellement.
Oui, tout à fait. On s'est adressé à la mairie de Brovary, la ville où j'habite, pour demander s'il y a de l'aide humanitaire à déposer dans des villages qui ont été occupés, justement, à 10-15 kilomètres de Brovary. Donc, aujourd'hui, on est avec une mission, avec une centaine de paquets destinés à des familles qui ont souffert, justement, le plus pendant cette occupation. Je suis actuellement dans le village qui s'appelle Ploské. C'est à une quinzaine de kilomètres de Brovary. Je me trouve devant une maison détruite. On a déjà déposé un paquet pour une famille qui a souffert durant cette occupation. Il faut dire que l'armée russe a passé 2 semaines dans ce village. Il y avait des combats, il y avait des maisons qui ont été détruites, pas beaucoup, on a vu quelques-unes, mais il y a les gens qui ont beaucoup souffert de cette occupation. Entre 10 et 12 personnes ont perdu leur vie lors de cette occupation. Et la dame qu'on a vue tout à l'heure, les soldats russes habitaient à l'intérieur de sa maison, nous avons montré des photos. C'est dégoûtant, donc, le désordre qu'ils ont laissé après leur passage ici.
Maintenant, Mariupol, on a appris dans les dernières heures qu'il y aura environ 500 personnes qui ont pu finalement être évacuées.
Oui, tout à fait. C'est fait officiel, enfin. 500 personnes de Azovstal, mais aussi de Mariupol, des civils qui ont quitté. M. Guterres a annoncé ça d'une manière officielle. On se réjouit d'apprendre que ça a eu lieu. Par contre, on s'inquiète beaucoup pour le sort de Azovstal qui continue à être... les essais de la prendre d'assaut continuent, en fait. Hier soir, on a eu droit de voir une vidéo filmé à l'intérieur des galeries souterraines à Azovstal, des militaires qui étaient à l'intérieur. Et vous savez ce qu'elle faisait? Elle chantait. C'était le soir, elle chantait une chanson ukrainienne. Il y avait une femme aussi en tenue militaire. On ne sait pas ce qui était exactement, si elle était militaire ou médecin ou psychologue, on ne sait pas. C'était une très belle chanson et je vous assure que 42 millions d'Ukrainiens prient pour le sort de militaires qui sont à l'intérieur encore de cette usine.
Maintenant, parlez-nous un peu de ce qui se passe sur le front. Il y a encore des combats qui sont excessivement violents dans plusieurs régions.
Oui, tout à fait. À Donbass, à l'est, il y a des combats d'une intensité incroyable. L'armée russe fait tout ce qui est possible jusqu'à 9 mai, en fait. Ils attaquent partout. Le travail d'artillerie est extrêmement lourd. Aussi, aviation. C'est vraiment dramatique. D'après ce que on nous dit, les villages, les villes de Popasna et Roubijne, ce sont des villages qui n'existent presque plus, en fait, puisque tout est détruit, en fait. Donc les gens rapportent sur place, les maisons sont détruites, il n'y a plus rien du tout. Dans la région de Lugansk, il n'y a aucune station d'essence qui ne soit pas détruite à ce moment-là. Par contre, côté Izium, c'est la région de Kharkiv plus au nord, il y avait une contre-attaque de l'armée ukrainienne hier qui avait du succès, en fait. Donc c'est un point stratégique pour les Russes parce que c'est par Izium qu'ils veulent encercler les troupes ukrainiennes, à Donbass. Et on a reçu cette bonne nouvelle sur la contre-attaque ukrainienne, ça veut dire que le projet de l'armée russe, il passera pas. c'est bien, mais le prix est extrêmement lourd, en fait, pour l'Ukraine, parce que les destructions sont massives et on perd, bien sûr, tous les jours nos soldats qui sont là sur la ligne de front en attendant, justement, les armements qui doivent venir prochainement pour leur aider à défendre et contre-attaquer l'armée russe.
Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à vous et continuez votre merveilleux travail. Tetiana Ogarkova, qui est journaliste, donc elle est à Brovary. C'est environ une dizaine de kilomètres de la capitale Kiev. Maintenant, chez nous, hier, ce rapport très attendu sur le hockey au Québec. On va en parler beaucoup ce matin. Alain a fait le tour il y a quelques minutes. Je pense qu'on doit ajouter un certain nombre de choses. D'abord, les gens qui se sont impliqués, il faut les saluer. Évidemment, Marc Denis, qui est le président, mais je sais que Danny Dubé s'est impliqué. Guillaume Latendresse. Bref, il y en a eu plusieurs. Puis on a mis en lumière, je dirais, un bon nombre de choses. D'abord, ce qui est important, il y a le principe général, qui est de dire que le hockey, c'est notre sport national. On le sait, on veut l'officialiser, tant mieux. On sait aussi que le hockey, ça coûte cher et que ça explique en partie pourquoi beaucoup de jeunes ne peuvent pas le pratiquer très longtemps. On sait aussi que, et j'ai beaucoup aimé les recommandations concernant tout l'aspect de la non-compétition chez les plus jeunes. De ramener, puis pas juste par principe un peu flou, là, mais assez concrètement, cette notion du plaisir, de jouer pour s'amuser. Et ça, là, ça demande pour beaucoup d'adultes un changement dans la tête. Alain donnait l'exemple que je trouve extraordinaire de dire pour les tout-petits, on divise la patinoire, puis il y a des coachs qui ne veulent pas, des parents qui ne veulent pas. Assurer un environnement sain, sécuritaire pour les joueurs, bien sûr, pour les arbitres, pour les entraîneurs, tous les moments de délire. Il y a une réflexion à faire sur les bagarres aussi, puis il y a une réflexion à faire sur les infrastructures sportives au Québec. Et je sais qu'il y a une main tendue vers les communautés culturelles en disant « Venez, essayez ça, le hockey, vous allez aimer ça. » Je veux rappeler quand même qu'il y a une offre différente de sport qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a des sports qui coûtent moins cher, qui sont extrêmement populaires. On peut penser au soccer, par exemple. Beaucoup de jeunes s'amusent et pour eux, c'est un sport accessible qui peut jouer pratiquement toute l'année. Alors, il va être intéressant de voir la suite des choses. Est-ce qu'on va accorder une aide fiscale, disons, pour ce qui est des équipements de hockey? Mais il n'y a pas juste les équipements, il y a les déplacements, les tournois. Il y a également l'espèce d'interaction entre le sport, le hockey, et l'école. Il y a combien de profs qui m'écrivent chaque année, là, qui me disent, ben un tel manque tant de journées par année parce qu'il part le vendredi pour aller dans un tournoi ou ils reviennent le lundi matin. Puis il y a des parents qui disent, ouais, mais c'est pas grave, on va s'arranger, puis il va étudier à ce moment-là. En tout cas, Marc Denis sera avec nous, Jocelyn Thibault, le président de Hockey Québec aussi. La ministre Marguerite Blais a annoncé hier, pour à peu près quoi, 3 milliards d'investissements sur 5 ans. En fait, quand je dis annoncé, là, c'était déjà prévu, là. C'est comme une annonce un peu réchauffée, mais avec comme objectif d'offrir dans les prochaines années des soins personnalisés. Avec la phrase, perso, je ne suis plus capable d'entendre ça, là, le patient au cœur des décisions puis des priorités, puis le bon patient au bon moment. Tous ces slogans qui sont pour la plupart vides. T'sais, c'est assez extraordinaire. Quand tu es rendu à dire que le payeur de taxes, le patient, la personne âgée, doit être au cœur, l'enfant, l'ado, doivent être au cœur des décisions. C'est comme si c'était nouveau. C'était pas ça avant. C'est quand même assez spécial ce que la com peut faire. Bref, personnaliser. Donc, le milieu de vie, l'heure des repas, pas faire ça de façon mécanique. Des gens qui mangent plus tôt, des gens qui aiment mieux manger un petit peu plus tard, des gens qui, par exemple, veulent avoir tel type de service de soins, en se disant que la clientèle qui vieillit, les fameux baby boomers, vont être plus exigeants que leurs aînés et qu'il faut offrir ces services-là. Et le gros de la somme, bien sûr, pour l'embauche de personnel. Alors, c'est le genre de plan qu'il faut saluer d'abord. Une volonté, parfait. On a de l'argent. Mais combien de postes dans le réseau de la santé sont affichés et ne sont jamais comblés? On va me répondre que oui, mais là, on a des stratégies pour attirer des gens, puis une formation accélérée, puis on offre des primes, puis des montants pour que des gens viennent comme ça suivre des cours pour être prêts à être infirmière auxiliaire, préposée. Bref, il faut combler les postes. Mais tous ces petits services personnalisés dans chacun des établissements, ça suppose une embauche massive. Et je comprends l'intention, puis je lisais ce matin que l'ex-premier ministre Philippe Couillard, quand il était ministre de la Santé, je lisais ça dans la presse, avait déposé en 2003, ça va faire 20 ans, des opérations ministérielles visant à offrir un milieu de vie de qualité pour les personnes. On parlait à ce moment-là de créer un milieu de vie dans lequel des services et des soins seront dispensés en partant des besoins, des goûts, des habitudes et des valeurs des personnes et de leurs familles. C'est la même affaire, c'est la même recette. Philippe Couillard, 2003, Mme Blais, 2022. Fait que vous comprenez pourquoi on est toujours un peu sceptique. Je comprends, les intentions sont là, mais est-ce que ça va se faire? Puis est-ce qu'on a vraiment... On va prendre les moyens pour que ça puisse se faire de façon précise puis le plus rapide possible. Nouvelle qui est peut-être passée un peu sous le radar hier, mais qui était intéressante. On sait qu'il peut y avoir des failles informatiques dans toutes les entreprises puis dans les différents sites des gouvernements. Et là, Québec a décidé d'embaucher des pirates, des hackers, pour trouver justement là où le système est faible. Et on va offrir des montants, des récompenses. Dans le fond, on dit à ceux qui sont brillants puis qui sont d'expérience puis qui pourraient le faire à des fins pas toujours très, très, disons, jolies, de prendre leur talent puis leur expérience puis tester le système gouvernemental. Et le ministre Éric Kerr parle d'un projet pilote, mais dans certains cas, les primes pourraient aller jusqu'à 7 500. Mais là, pour avoir 7 500, ça veut dire que tu as trouvé quelque chose de grave, là. Tu as vraiment là, identifié une lacune majeure dans le système. On va parler tantôt avec Patrick Mathieu, qui est le cofondateur du Hackfest, un spécialiste, justement, de cette question-là. Un peu de politique ce matin. D'abord, hier, c'était ce débat chez les conservateurs dans un environnement là, à l'extérieur du parti, mais qui regroupait une fonde de conservateurs. Et on a senti, mettons, l'affrontement entre Jean Charest puis Poilievre. On va en parler avec Jonathan tantôt, là. Mais ce qu'on peut dire ce matin, d'abord, ce sont deux visions conservatrices qui s'affrontent, là. Puis c'est pas juste au niveau idéologique, c'est au niveau personnel. Les deux se parlent pas, les deux se regardent pas, les deux se donnent pas la main. Et Charest a attaqué le convoi de la liberté. Juste rappeler qu'il y a un paquet de conservateurs qui l'ont soutenu. Il s'est fait huer pour ça. M. Poilievre, au contraire, a essayé de dire que lui, il a appuyé les camionneurs. Puis t'as des gens qui ont dit, ouais, non, mais t'as pris des photos, mais t'étais pas avec eux pour vrai. Puis dans le fond... T'es un kit Kodak qui s'est poussé le plus vite possible. Puis là, je vous passe le débat sur l'avortement, puis on peut voir à quel point c'est un parti qui, je dirais, boit à beaucoup, beaucoup d'abreuvoirs, là. Des gens de toute tendance qui forment une espèce de coalition à la base conservatrice. Mais tu sais, je pense que Gérard Deltel n'a pas beaucoup de points en commun avec certains députés qui sont, par exemple, contre l'avortement. D'ailleurs, en parlant de ça, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'au-delà de l'arrêt Roe versus Wade, qui a donc autorisé les avortements, puis qui est contesté par des juges de la Cour suprême, puis on a vu là, tout le débat qui est reparti cette semaine, il y a plusieurs analystes qui pensent que les juges pourraient également remettre en question certains acquis des dernières années, certains droits qui ont été reconnus. Je vous donne des exemples. Les droits aux gens de même sexe de se marier. Est-ce qu'on pourrait partir des mêmes principes constitutionnels et dire c'est interdit? Ou on laisse ça à certaines juridictions? Il y a un gouverneur qui part en guerre contre l'éducation obligatoire pour les illégaux. Il y avait une décision aussi qui avait été rendue. Lui est contre ça. Alors, toutes les questions entourant l'immigration, entourant l'orientation sexuelle, entourant des enjeux sociaux qui ont fait l'objet de débats, puis pour plusieurs, ce sont des victoires importantes. Est-ce que tout ça va reculer tout d'un coup? Est-ce qu'on retourne vers des, disons, débats sur des questions qu'on pensait avoir réglées depuis longtemps? Ça va être quand même pas mal intéressant à suivre. Aussi, la FTQ Construction, on l'a vu là, depuis deux jours, qui essaie de ramer d'aplomb, là, suite aux pressions exercées, qui a amené la FTQ à décider d'aller avec une enquête indépendante. J'ai un peu sourcillé hier quand le président de la FTQ nous a expliqué qu'il avait téléphoné chez Juripop. Je veux dire, la FTQ, là, c'est une organisation syndicale riche. Il appelle Juripop, qui est une organisation qui aide sur le plan juridique des gens qui en ont besoin. Il faut pas savoir c'est quoi Juripop pour appeler là, là, sérieusement. Mais en tout cas, mais moi, là, ce qui m'intéresse, est-ce que l'affaire Grondin, ça va être suffisant pour brasser l'omerta puis l'espèce de culture de camouflage à la FTQ puis à la FTQ Construction? Tu sais, puis la FTQ Construction, il y a eu toutes sortes d'époques. L'époque des gros bras, des jardins. Il y a eu l'époque de Jocelyn Dupuis. Rappelons-nous la commission Charbonneau. Puis là, là, tu sais, c'est... Il n'y a pas trop d'informations qui circulent. Les budgets, les règlements, puis, tu sais, arrivons dans un monde moderne. Puis moi, je pense surtout aux femmes qui travaillent dans le monde de la construction. On-tu bien à l'aise avec la FTQ Construction? C'est un bon syndicat pour défendre les droits des femmes. Tu sais, la question, elle se pose, là. Alors, est-ce que cette vague, ce coup qui vient d'être donné, ça va changer l'attitude? Peut-être. Mais on verra. Rapidement, quelques autres nouvelles. Un sondage nous dit ce matin dans la presse, un sondage mené pour la Chambre de commerce, que 68 % des travailleurs sont retournés à leur bureau, temps plein ou temps partiel. Un travailleur sur trois envisage d'y retourner 5 jours par semaine. Ce qui est quand même une tendance différente de ce qu'on a vu. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre cas. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises là, qui... disent aux gens, ben vous revenez. Puis c'est pas toujours 100 % là. C'est une fois par semaine, deux fois par semaine. Ça se fait graduellement. Mais donc, c'est le retour aussi aux activités connexes. Reprise un peu des lunchs, reprise un peu du magasinage. C'est quand même essentiel pour le centre-ville. Alors, on peut regarder ça ce matin. On fera le point aussi sur les résultats financiers d'Aéroport de Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Dominique Arpa.
Fait que je me suis dit, cette journée-là, je pourrais jamais avoir plus peur que ce que j'ai vécu dans le bureau du médecin lorsqu'elle m'a dit que j'avais un cancer puis que la masse était grosse comme un pamplemousse sur mon rein.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir. L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On peut observer depuis le début de l'année un phénomène que j'aimerais partager avec vous ce matin. On a commencé en janvier avec la pandémie, en fait, une autre vague avec une série de mesures restrictives pour les citoyens. On a vu quelques rapports être publiés sur le réchauffement de la planète, sur les changements climatiques, sur les gaz à effet de serre, des politiciens qui présentent des plans, qui fixent des cibles. Et en même temps, les rapports qui sont faits nous démontrent très clairement que ces objectifs ne sont jamais atteints. Arrive une guerre en Ukraine, encore là, l'opinion publique est monopolisée. Et puis on a d'autres rapports des Nations unies. C'est comme si toute la question du climat se faufilait entre un certain nombre d'événements. Or, pourtant, ceux et celles qui font les analyses nous disent qu'il y a encore quelques années à peine pour prendre des décisions qui vont marquer les prochaines générations. Le 8 mai, c'est la fête des mères, bien sûr, mais c'est aussi l'occasion d'organiser à Québec une marche. C'est organisé par Mères au front, Ma place au travail. Deux invités ce matin pour en parler. Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est auteure, cinéaste, et Françoise David. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Ben, je commence avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Vous êtes co-instigatrice de ce mouvement. Qu'est-ce qui va se passer à Québec et pourquoi vous le faites?
Bon, alors, Mère au front et Ma place au travail invitent toutes les mères, mais aussi leurs alliés, donc les pères, les grands-pères, les jeunes qui ont plus envie de faire d'enfants parce qu'ils ont peur pour ce qui va se passer dans le futur, à se grouper puis à célébrer autrement la fête des mères. Cette année, on a comme plus ou moins envie d'être célébrée toute seule dans notre salon. On n'a pas envie de fleurs ni de chocolat. On se sent inconfortable dans notre rôle de mère, simplement parce que on n'est plus capable d'assurer nous-mêmes la protection des petits qu'on a mis au monde. La tâche est trop lourde. On nous dit souvent les gestes individuels. On les fait comme on peut, mais les individus et les mères surtout peuvent plus tenir tout ça sur leurs seules épaules. C'est pas possible. Donc, on demande au gouvernement de prendre ses responsabilités. Puis c'est pour ça qu'on invite tout le monde et les gens répondent à l'appel. D'ailleurs, le territoire au complet va se déplacer pour venir à Québec célébrer d'une façon particulière la fête des mères cette année.
Vous dites dans un texte qui a été publié dans la presse, je serai avec mes trois enfants, avec ma mère, avec ma belle-mère, avec mon amoureux, mon père et le plus de gens possible. On n'est pas là pour manifester contre un parti ou un gouvernement, mais on veut plutôt sensibiliser les gens puis marcher directement pour s'assurer qu'il y a une suite, finalement, à tous ces rapports puis ces objectifs qu'on nous fixe.
Ben exactement, vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que souvent, on va pointer l'environnement comme étant un antagoniste à la question économique. Il y a plusieurs études déjà qui ont été faites. Il y a des économistes qui ont pris la parole pour dire que tout ça était parfaitement conciliable, que les solutions viables économiquement existaient. Puis, il n'est pas question de l'environnement. L'environnement, c'est ce qui nous environne. Là, on parle de nos enfants. Nos enfants, c'est très pragmatique, là. C'est-à-dire qu'on les a mis au monde, on les élève du mieux qu'on peut. Puis en ce moment, les solutions qui existent sont pas appliquées. Le gouvernement est pas responsable de ses citoyens. Puis il est plus atteint. Donc, on l'observe. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'éco-anxiété. Les enfants dorment plus. Ils savent lire. Ils constatent la catastrophe qui est à la porte. Puis ils constatent surtout que ça bouge pas assez vite. Ça bouge pas à la hauteur de la catastrophe annoncée. Ils se sentent démunis. Les mères se sentent démunies. Puis ceux qui les entourent aussi. Donc, effectivement, on pointe pas ce gouvernement-là particulièrement du doigt en lui disant « on est contre toi ». On est plutôt pour plus de courage politique, plus d'audace. On sait qu'il y en a eu par le passé. Puis on se lève pour revendiquer qu'il soit à la hauteur de ce qui est annoncé. Qu'on puisse nous regarder nos petits dans les yeux puis nous dire, leur dire ben on fait tout ce qu'on peut. Puis ce qu'on peut, c'est aussi aller se mobiliser à Québec pour demander plus d'audace politique pour qu'il soit à la hauteur de ce qui se passe en ce moment.
Françoise David, vous serez là à Québec. Vous avez mené plusieurs batailles. Je me souviens, les pins et les roses. Et comment vous situez cette marche ou en fait ce combat très particulier, je dirais, dans l'ensemble des luttes qu'on a vues depuis les dernières années?
Ben, écoutez, les organisatrices ont décidé d'appeler l'événement du pain et des forêts. Et c'est là qu'elles m'ont appelé en me disant, est-ce que ça vous tenterait de venir avec nous? Parce que pour elles, il y en a une continuité, puis moi, je la vois bien. Quand on demandait en 95 du pain et des roses, on demandait, comme le disait bellement l'une de mes amies, de quoi vivre, hein, de quoi vivre, du pain sur la table, et des raisons de vivre. À cette époque-là, on parlait surtout de qualité de vie. Aujourd'hui, on dit le mot environnement. On dit que on veut laisser à nos enfants, dans mon cas, à mes petits-enfants, j'en ai cinq, un monde où c'est possible de vivre, où l'air qu'on respire est bon, où pour ma petite-fille qui vit aux îles de la Madeleine, elle n'ait pas de crainte que toutes les digues érigées entre les îles soient démolies par la hauteur des marées. C'est ça qui attend nos chères îles de la Madeleine. On veut que nos terres agricoles continuent de produire. On veut des forêts. On veut mettre fin aux océans de plastique. C'est tout ça, là. Puis moi, à l'âge que j'ai, là, je le fais pour mes petits-enfants. Donc, la continuité, elle est là. Je rappelle aussi que dans cette marche dimanche, il y aura plein de jeunes mères de famille qui, imaginez-vous, en 2022, n'ont tellement pas de place dans aucune sorte de service de garde qu'elles ne peuvent pas travailler. Ça, c'est quand même un comble. En 95, on menait des luttes pour que les femmes puissent travailler partout et qu'elles aient les mêmes salaires que les hommes. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, on en est à OK, on a fait un grand bout, on peut travailler pas mal dans tous les milieux de travail, les salaires tranquillement se rapprochent, mais on a des jeunes mères qui, faute de services de garde, ne peuvent pas travailler et perdent donc toute leur autonomie économique. Alors, le pain, là, c'est là qu'il est. Il y a des jeunes mères de famille qui nous disent « Moi, je demande pas mieux que de participer à la vie de la société que d'être autonome économiquement. Ben, donnez-moi une place en service de garde. » Alors, ce qui n'a pas l'air lié est lié parce que les femmes, là, encore aujourd'hui, malgré M. Arcan, évidemment, je le sais, de très beaux et grands changements qui se sont produits depuis 50 ans, là, sont encore principalement responsables des familles, ont dans la tête ce qu'on appelle la charge mentale, là, tout ce qu'il faut faire pour les enfants. Bien sûr, les papas participent énormément plus que ce que mon propre père faisait, mettons. Mais n'empêche que la responsabilité familiale, c'est pas mal encore sur le dos des femmes. Le salaire d'une mère de famille, souvent, est moins élevé que celui du père. Alors, s'il n'y a qu'un emploi pour les deux, mais c'est lui qui va le prendre, l'emploi, et elle va rester à la maison, même si ça n'est pas son choix. Mais et mères-là portent aussi la charge de se demander, avec les pères, ça, là-dessus, je pense que les pères sont pas mal d'accord, il va advenir quoi de nos enfants dans une planète qui va si mal? Alors, plutôt que de se décourager, on marche.
Justement, au lieu de se décourager, vous marchez. C'est pas le temps de baisser les bras. Mais en même temps, Françoise David, vous avez été députée. Vous connaissez le fonctionnement du système politique. Et là, on n'est pas en train de spéculer sur un événement qui va se produire dans 25 ans, dans 30 ans. On sait que c'est à nos portes. Puis on sait aussi qu'on se fixe des cibles qu'on n'atteint jamais. Comment l'ancienne politicienne pourrait expliquer aux gens ce matin, là, concilier de « je continue » je baisse pas les bras, mais en même temps, il se passe pas grand-chose.
Vous avez absolument raison. C'est ça le drame. C'est que la volonté politique, et ça, c'est pas seulement au Québec, c'est dans la plupart des pays du monde, là, elle ne suit pas, elle n'est pas là. Mais c'est parce que on comprend très bien, vous et moi, M. Arcan, ce qu'il va falloir faire pour que ça change. Il va falloir s'attaquer, là, par nos actions, là, à des pouvoirs gigantesques. Le pouvoir des compagnies pétrolières, là, c'est pas demain qu'on va être capable de l'abolir. Toute cette puissance de multinationales qui sont là, bon, c'est pas un combat facile, il faut quand même se le dire. Mais on peut commencer toujours bien par chez nous. On peut décider qu'un troisième lien, c'est pas de ça qu'on a besoin. On vient de gagner, moi je trouve, les citoyens viennent de gagner une belle victoire avec le REM à Montréal, dont une bonne partie est tout à fait correcte, là, mais où il y avait des aspects qui n'avaient pas de bon sens. Et pourquoi on vient de gagner ça? Mais parce qu'il y a un paquet de gens qui se sont tenus debout. Je sais bien qu'il y a peut-être aussi des considérations électorales, je suis pas folle, mais s'il n'y avait pas eu ces citoyens, n'empêche, ben, il serait fait le REM avec cette espèce d'horrible structure aérienne qui coupait en deux le boulevard René Lévesque à Montréal. Autrement dit, les victoires citoyennes, elles sont possibles. Mais pour ça, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. C'est pour ça que j'espère qu'on sera très, très nombreuses et nombreux dimanche. Et c'est pas fini, il y a dimanche, mais la vie est pas finie. Il y en aura d'autres moments.
Okay.
Moi, j'hésiterai pas non plus à dire aux gens, on aura une campagne électorale au Québec bientôt. Je veux pas dire aux gens pour qui voter, pas du tout. Mais ce que je veux suggérer aux gens, par exemple, c'est de s'informer comme il faut, d'aller voter, premièrement, et puis de faire un vote éclairé en fonction de ce que tous les partis vont nous proposer en matière d'environnement et de justice sociale. Puis là, les gens feront leur choix. Qui va nous proposer là une vision de l'avenir du Québec qui répond aux besoins de nos enfants et de nos petits-enfants?
En terminant, Anaïs Barbeau-Lavalette, je comprends que vous êtes inquiète, vous l'avez exprimé assez clairement, mais vous puisez où cette énergie pour dire « je vais me battre puis je vais me monter quand même au front », même si on nage de déception en déception depuis plusieurs années?
Ben c'est là en fait, je pense qu'elle est la vraie réponse. Puis c'est pour ça que Mère au front, Ma place au travail, c'est un mouvement qui est transpartisan. On est dans la rue parce qu'on aime nos enfants, puis parce qu'on s'inquiète pour nos enfants. Puis la charge est plus exactement là. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui s'empêchent de sortir ou de se prononcer sur ces questions-là parce qu'ils ne sont pas outillés. Moi, je suis ni scientifique, ni éco-fiscaliste, ni militante de profession, mais je me sens légitime de prendre la parole parce que j'ai fait des enfants, puis parce que je les aime profondément, puis je suis pas parfaite dans mon quotidien, donc j'invite aussi tous les imparfaits et toutes les imparfaites à prendre la rue parce que c'est de ça qu'on parle, c'est le futur, puis c'est très concret. Nos enfants comptent sur nous. Ils n'ont pas, eux, les moyens pour sortir dans la rue. Je pense que le gouvernement, il les a sur sa table, les moyens pour changer les choses. Je ne pense pas que ce soit une utopie. Puis quand on parle de scénario catastrophe, malheureusement, c'est plus une science-fiction. Ce qui va arriver est concret. Tous les experts scientifiques l'ont dit. Maintenant, le gouvernement a sur sa table des palettes de solutions étudiées par des experts. Il pourrait les appliquer. Il n'en tient qu'à lui d'être responsable. Puis je pense que tous les enfants le regardent en ce moment. Puis nous, les mères, on est le relais de ce regard-là. Puis on va attendre que le gouvernement ait le courage de la position qu'il occupe en ce moment.
Merci à toutes les deux. Je rappelle que cet événement aura lieu dimanche. Donc, le rassemblement est prévu. Donc, c'est à Québec, Parc du Musée, sur la Grande Allée. Puis il y aura un déplacement vers l'Assemblée nationale. Ça commence à 11h. Donc, nos invités ce matin, Anaïs Barbeau-Lavalette et Françoise David.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Ukraine, un certain nombre de choses qu'il faut savoir ce matin. Tout d'abord, à Mariupol, les bombardements continuent sur ce complexe industriel, alors qu'il y a encore des militaires ukrainiens, encore possiblement des civils qui se trouve coincé à l'intérieur, un peu piégé, si vous voulez. Toujours cet embargo sur les produits pétroliers qui est en train de s'articuler. Et ce matin, j'ai parlé avec, bien sûr, notre collègue là-bas, Tetiana Ogarkova, qui est à Brovary, c'est une dizaine de kilomètres de la capitale Kiev, et elle était sur le terrain, justement, pour accompagner un convoi, si vous voulez, d'aide humanitaire. On l'écoute.
Oui, tout à fait. On s'est adressé à la mairie de Brovary, la ville où j'habite, pour demander s'il y a de l'aide humanitaire à déposer dans des villages qui ont été occupés, justement, à 10-15 kilomètres de Brovary. Donc, aujourd'hui, on est avec une mission, avec une centaine de paquets destinés à des familles qui ont souffert, justement, le plus pendant cette occupation. Je suis actuellement dans le village qui s'appelle Ploske. C'est à une quinzaine de kilomètres de Brovary. Je me trouve devant une maison détruite. On a déjà déposé un paquet pour une famille qui a souffert durant cette occupation. Il faut dire que l'armée russe a passé 2 semaines dans ce village. Il y avait des combats, il y avait des maisons qui ont été détruites. Pas beaucoup, on a vu quelques-unes. Mais il y a les gens qui ont beaucoup souffert de cette occupation. Entre 10 et 12 personnes ont perdu leur vie lors de cette occupation. Et la dame qu'on a vue tout à l'heure, les soldats russes habitaient à l'intérieur de sa maison. On nous a montré des photos. C'est dégoûtant, donc, le désordre qu'ils ont laissé après leur passage ici.
Maintenant, Mariupol, on a appris dans les dernières heures qu'il y aura environ 500 personnes qui ont pu finalement être évacuées.
Oui, tout à fait. C'est fait officiel, enfin. 500 personnes de Azovstal, mais aussi de Mariupol. Des civils qui ont quitté. Monsieur Guterres a annoncé ça d'une manière officielle. On se réjouit d'apprendre que ça a eu lieu. Par contre, on s'inquiète beaucoup pour le sort de Azovstal qui continue à être... les essais de la prendre d'assaut continuent, en fait. Hier soir, on a eu droit de voir une vidéo filmé à l'intérieur des galeries souterraines à Azovstal, des militaires qui étaient à l'intérieur. Et vous savez ce qu'elle faisait? Elle chantait. C'était le soir, elle chantait une chanson ukrainienne. Il y avait une femme aussi en tenue militaire. On ne sait pas ce qui était exactement, si elle était militaire ou médecin ou psychologue, on ne sait pas. C'était une très belle chanson et je vous assure que 42 millions d'Ukrainiens prient pour le sort de militaires qui sont à l'intérieur encore de cette usine.
Maintenant, parlez-nous un peu de ce qui se passe sur le front. Il y a encore des combats qui sont excessivement violents dans plusieurs régions.
Oui, tout à fait. À Donbass, à l'est, il y a des combats d'une intensité incroyable. L'armée russe fait tout ce qui est possible jusqu'à 9 mai, en fait. Ils attaquent partout. Le travail d'artillerie est extrêmement lourd. Aussi, aviation. C'est vraiment dramatique. D'après ce que on nous dit, les villages, les villes de Popasna et Roubijne, ce sont des villages qui n'existent presque plus, en fait, puisque tout est détruit, en fait. Donc les gens rapportent
sur place, toutes les maisons sont détruites, il n'y a plus rien du tout. Dans la région de Lugansk, il n'y a aucune station d'essence qui ne soit pas détruite à ce moment-là. Par contre, côté Izium, c'est la région de Kharkiv, plus au nord, il y avait une contre-attaque de l'armée ukrainienne hier qui avait du succès, en fait. Donc, c'est un point stratégique pour les Russes parce que c'est par Izium qu'ils veulent encercler les troupes ukrainiennes, à Donbass. Et on a reçu cette bonne nouvelle sur la contre-attaque ukrainienne. Ça veut dire que le projet de l'armée russe, il passera pas. C'est bien, mais le prix est extrêmement lourd, en fait, pour l'Ukraine, parce que les destructions sont massives et on perd, bien sûr, tous les jours nos soldats qui sont là sur la ligne de front en attendant, justement, les armements qui doivent venir prochainement pour leur aider à défendre et contre-attaquer l'armée russe.
Voilà. Tetiana Ogakova, qui est journaliste, elle est ce matin sur le terrain dans un petit village, Ploské. C'est à quelques kilomètres de la capitale. Et peut-être juste pour compléter l'information, Amnesty International qui dit avoir documenté des crimes de guerre commis par les Russes dans plusieurs villages. Et quand je dis documenté, ce sont des témoignages qui ont été recueillis et entre autres faisant état de civils qui ont été exécutés en pleine rue et dans certains cas qui auraient même été torturés. Alors voilà pour notre couverture de la situation en Ukraine. Revenons ici au Québec pour parler de ce rapport très attendu qui a été déposé hier concernant le hockey. Il y a des grands principes. Il faudra bien sûr par la suite voir comment tout ça va se décliner. Mais l'idée de confirmer que le hockey est notre sport national, c'est une chose. Mais l'idée aussi de dire qu'il faut que ça soit accessible puis que les gens qui jouent au hockey, les jeunes, aient du plaisir. J'en parle avec Jocelyn Thibault, qui est le directeur général de Hockey Québec, qui a fait partie aussi du comité. Monsieur Thibault, bonjour.
Bonjour, M. Arquin.
Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ce rapport-là?
Vous l'avez dit, que nos jeunes aient plus de plaisir, qu'on ait plus de jeunes qui jouent puis rendent le sport plus accessible. Aucun doute que c'est dans cette direction-là qu'on veut aller. C'était pas mal aussi, je vous dirais, le mandat que Marc Denis avait reçu puis qu'il nous a transféré en tant que membre du comité. Puis c'est la recommandation la plus importante, je pense, ou les orientations les plus importantes.
OK. Comment on rend la pratique du hockey quelque chose d'agréable, que des jeunes de 6 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans aient du plaisir, juste avoir strictement du plaisir, ce qui n'empêche pas de vouloir gagner, là, mais que le climat soit agréable.
Formation des entraîneurs. Je pense que si on peut mieux former, puis plus en passant, tous les entraîneurs bénévoles qui donnent de leur temps pour justement pour organiser puis enseigner le hockey à nos jeunes joueurs, je pense que ça passe beaucoup par la formation des entraîneurs, des intervenants dans un premier temps, beaucoup d'éducation au niveau des parents, parce que ce qu'on a remarqué à travers le temps, puis ce qu'on voit aussi encore, M. Arquin, c'est que souvent les parents sont très, je veux dire, ils ont beaucoup d'attentes, sont très exigeants envers leurs jeunes joueurs, joueuses, leurs jeunes enfants, et puis souvent les attentes à un jeune âge, surtout chez les moins de 13 ans, sont vraiment élevées, puis à ce moment-là, c'est pas le temps. C'est le temps que nos jeunes aient du plaisir, puis donc formation des entraîneurs, puis beaucoup d'éducation enlevée, peut-être aussi par la réglementation, des éléments qui amènent à la compétition. Tu sais, on parle de statistiques, ces choses-là. Fait que peut-être au niveau de la réglementation, on peut faire des choses aussi.
Il y a une recommandation qui a peut-être fait sursauter les gens hier, qui était de dire qu'il faudrait inclure l'apprentissage du patin dans le programme scolaire ou primaire.
Oui. Oui, c'est intéressant parce que ce qu'on a remarqué, c'est que dans certains pays où le sport national et la natation, par exemple, comme un peu ici au Québec, le sport est en déclin, puis là, certains pays ont justement instauré l'apprentissage de certains sports là au niveau primaire, dès un jeune âge chez les jeunes. Alors, l'idée vient un peu de là, c'est-à-dire vraiment... ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de faire du sport, on parle de certaines habitudes de vie, mais tu sais, apprendre à faire du patin, ça peut être aussi... pas nécessairement faire des joueurs de hockey de la LNH ou des joueurs de hockey de l'équipe nationale. Là, c'est vraiment de faire du sport puis d'apprendre à faire du patin. On trouvait l'idée intéressante.
OK. Deux, trois questions pour conclure. La première, il y a un enjeu économique quand même pour beaucoup de parents. Ça coûte cher jouer au hockey. Puis là, je parle pas juste de l'équipement, mais des déplacements dans certains cas. Comment rendre ça accessible à la famille québécoise?
Il y a plein d'éléments. Évidemment, je ne sais pas si on peut faire quelque chose au niveau des équipementiers, mais ça, vous comprendrez, c'est hors de notre contrôle. Là. Ouais. Mais assurément, moins de voyagements. moins de déplacements. Si on pouvait, surtout un jeune âge, si on m'en est à passer, tu sais, le rapport cible quand même, après 13, 14 ans, on commence, au niveau de l'élite, on va commencer à se spécialiser de plus en plus. Donc, évidemment, que si on parle de spécialisation, puis là, on va être appelé à voyager un petit peu plus, mais en bas de 13 ans, là, je pense, de façon de jouer de façon plus régionale, moins de déplacements, avec des horaires plus allégés, je pense que c'est tous des éléments, puis bon, il y a peut-être évidemment les éléments fiscales là, qu'on peut regarder aussi, mais c'est un ensemble de choses, du circuit, je pense, qui vont nous faire arriver à ce but-là.
Dernière question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce déclin? Je veux dire, à un moment donné, tout le monde jouait au hockey dans les années 60, 70. C'est quoi la conclusion? Pourquoi on est rendu là? Puis pourquoi il y a eu ce désintérêt?
Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Selon moi, je vais vous donner mon explication bien personnelle. Là, c'est qu'on sait. Le hockey, c'est pas adapté. Le hockey, c'est pas modernisé. Nos structures de hockey ne sont pas modernisées. Les familles ont changé, les attentes des parents ont changé. Avant, en tout cas, moi, de ma génération à moi, là, tu avais à l'âge de 4-5 ans, par défaut, on te faisait mettre un équipement de hockey, puis on allait à l'aréna, c'était comme ça. Maintenant, c'est plus ça. Démographiquement, le Québec a changé, puis le hockey est peut-être moins... Je pense que notre offre, nos produits, notre offre de service est peut-être moins cool, moins moderne, moins attractive pour les jeunes familles. Puis moi, je pense qu'il faut, comme n'importe quel domaine, se mettre dans 10 ans, dans 15 ans, puis imaginer comment la pratique du hockey va être. Il faut moderniser notre structure, moderniser nos produits, nos programmes, puis je pense qu'on est rendu là.
Merci, M. Thibault. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Jocelyn Thibault est le directeur général de Hockey Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir. L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Revenons maintenant sur la FTQ et la FTQ Construction. Résumons la saga, c'est-à-dire que Rénal Grondin, qui était le président de la FTQ, a été, entre guillemets, démissionné. Pourquoi? Parce qu'on a appris qu'elle fait l'objet d'une sanction de la part d'un tribunal professionnel. En gros, il a harcelé sexuellement une secrétaire administrative pendant une période de 2 ans. Puis quand je dis harceler, là, c'est de façon régulière dans le bureau, dans le stationnement, dans des rencontres sociales. Et paraît-il que personne ne savait ça jusqu'au moment où la presse a découvert que monsieur avait des antécédents. Et depuis ce temps-là, la FTQ fait l'objet de pressions, à tel point qu'ils ont finalement accepté qu'on organise une enquête indépendante. Les modalités restent à voir. Est-ce que le rapport sera rendu public? Hier, le président de la FTQ a dit oui, ça devrait. Et entre-temps, Lise Thériault, qui est la porte-parole de l'opposition en matière d'entrepreneuriat féminin, puis elle a été surtout ministre du Travail, dit ben, il faudrait peut-être modifier la loi, les règlements, puis faire en sorte que quelqu'un qui est reconnu coupable ou responsable d'un crime comme ça de nature sexuelle, de harcèlement, on devrait l'empêcher d'être élu à la tête d'un syndicat. Elle est avec nous ce matin. Madame Thériault, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, quand vous dites on devrait l'empêcher d'être élu à la tête d'un syndicat, est-ce que c'est pour vous la même chose pour un élu dans d'autres types de fonctions? Est-ce que c'est vrai pour quelqu'un qui a d'autres types d'antécédents? Pourquoi vous réagissez comme ça avec un événement qui vise un leader syndical?
Ben, pour commencer, parce qu'un président de syndicat, il est supposé défendre les droits des travailleurs, première des choses. Il est élu pour ça, pas pour aller à l'encontre, ce que M. Grondin a fait. Deuxièmement, souvenez-vous, quand j'étais ministre du Travail, à la régie du bâtiment, lorsque les gens ont fait l'évasion fiscale, de la fraude, de l'importation de drogue, on les a empêchés d'avoir un permis. Maintenant, on peut suspendre, enlever un permis parce que c'est un privilège. Fait que c'est le parallèle que je ferais avec un président de syndicat. Tu es élu par tes membres, oui, mais on peut mettre des conditions préalables. Et ce n'est pas normal que quelqu'un qui a fait face à une condamnation d'un tribunal comme la Commission des lésions professionnelles ou le tribunal du travail puisse être président de syndicat et continuer de grimper les échelons comme si de rien n'était. Honnêtement, là, les présidents de syndicats sont supposés de défendre leurs travailleurs, pas de les agresser. Puis dans le cas de M. Gondin, c'est écrit dans le jugement qu'il a harcelé et agressé sexuellement son adjointe. C'est inadmissible.
Mais est-ce que vous iriez à inclure ça, par exemple, pour la politique, pour les gens qui veulent être députés ou maire d'une ville?
Ouais, ça, c'est la question qu'on m'a posée hier, puis c'était pas réfléchi, c'était une question à laquelle j'ai répondu. Mais sincèrement, moi, je ne voudrais jamais siéger aux côtés d'un homme ou d'une femme qui a agressé puis qui a transgressé nos lois. Ma chef de parti, Dominique Anglade, je suis convaincue qu'elle fera les vérifications nécessaires. Puis hier, quand j'ai entendu François Legault dire, ben, c'est la population de choisir, j'ai pas à me mêler de ça. Je m'excuse, mais comme chef de formation politique, les chefs ont toute la responsabilité d'avoir les meilleurs candidats qui sont capables de montrer patte blanche à offrir à la population pour aller défendre leurs intérêts. Puis, sincèrement, là, nous, on les écrit, les lois. C'est nous autres qui les écrit les lois. On a écrit les lois sur le harcèlement au travail, sur l'équité salariale. On vient de créer des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle. Puis vous êtes en train de me dire qu'un gars qui a gagné toute sa vie dans le milieu du syndicalisme a pu être chef de sa section, monter à l'FTQ Construction, puis ça, ça lui donne le privilège de siéger sur tous les comités, autant la Commission des normes du travail que sur la Commission de la construction du Québec, dans les comités qui décident des politiques pour lutter contre le harcèlement, puis pour impliquer les femmes. Hey, c'est le bout du bout, là. Personne n'aurait pu écrire ça comme scénario.
Là, je vais faire appel à votre mémoire comme ancienne ministre du Travail, quand vous étiez en duo avec Diane Lemieux, et que vous avez mené là, des batailles assez solides et de front avec des syndicats macho, on va se le dire, là. D'abord, est-ce que vous croyez ça, que personne à la FTQ était au courant des antécédents puis des jugements rendus contre Grondin?
Bon, je pense que M. Boyer ne le savait pas, ça s'est pas rendu à lui. Par contre, il y a quelqu'un qui a donné un mandat à un avocat de s'en occuper. Puis c'est sûr que s'il y avait un risque de poursuite, il y a des gens qui étaient au courant. Fait que dans le local ami, c'est impossible que personne ne le savait. Puis c'est sûr que si c'est la FTQ Construction qui a mandaté l'avocat à la Commission des lésions professionnelles pour défendre M. Grondin, ben il y a quelqu'un qui a donné un mandat, c'est clair. Ce qui est incompréhensible aussi, c'est que de manière générale, les syndicats là vont suivre ce qui se passe dans les tribunaux du travail puis les décisions qui sont rendues pour justement être capables d'être à jour. C'est leur spécialité, défendre les travailleurs. Fait qu'ils vont regarder les jugements, puis ils vont dire « Ah, telle affaire, il est arrivé ça. Regardez, il faudrait qu'on modifie telle affaire, ça, ça, ça. OK, dans la prochaine cause, faut faire attention parce que là, c'est là-dessus qu'on l'a perdu. » Voyons, c'est illogique qu'il n'y ait pas personne qui ait retenu cette cause-là.
La FTQ puis la FTQ Construction ont un historique d'omerta, c'est-à-dire que moi je me souviens des premières vagues où ça brassait puis c'était à coup de poing là dans la FTQ Construction. On a vu avec la commission Charbonneau entre autres la saga de Jocelyn Dupuis. Là arrive l'affaire Grondin. On n'a pas senti là une volonté là très très claire au départ de à part de le tasser là de vouloir aller vers une enquête. Autrement dit là. Avez-vous l'impression que là, cette fois-ci, la FTQ va être obligée de se laver un peu plus?
Ben, honnêtement, moi, j'ai pas compris pourquoi le ministre n'a pas déclenché cette enquête-là. Les lois des syndicats, c'est aussi la responsabilité des politiciens. La loi de la construction de la R20, c'est sous la responsabilité des politiciens. Puis, il voulait pas s'en mêler. Puis, ça a pris une motion unanime amendée par nous. Là, je vous ferai remarquer, c'est ma collègue Isabelle Melançon qui a rajouté des bouts, puis le ministre a fini par dire oui, pour qu'il y ait une enquête qui soit déclenchée. Ce que j'ai entendu de l'entrevue que vous avez faite, avec le président de la FTQ, c'est que le mandat, il était pas tout écrit, qu'on savait pas trop. Honnêtement, j'espère qu'ils vont poser les bonnes questions. J'espère qu'on aura accès au mandat qu'ils auront donné, mais surtout aux résultats aussi. Mais chose certaine, moi, j'espère qu'ils vont faire preuve d'une grande transparence Puis s'ils sont pas capables de faire leur analyse comme il faut, le gouvernement va devoir se poser des questions sur leur mode de fonctionnement. Puis je sais que c'est une boîte de Pandore qui est difficile à ouvrir, surtout à la veille d'une campagne électorale. Mais honnêtement, les relations du travail, moi, je pense que c'est important. Il faut protéger les droits des travailleurs, pas à tout prix les droits des syndicats, mais les droits des travailleurs. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ce qui s'est passé avec M. Grondin, ça ne se reproduise plus. Il y a une femme qui a été victime, qui est retournée chez eux, qui est en choc post-traumatique encore, qui, elle, elle n'a pas eu de prime de départ, elle n'a pas eu d'avantage à rien, sinon que de rentrer chez eux puis d'avoir été agressée puis assolée pendant 2 ans. C'est épouvantable. Fait que, bon, ça ne se reproduise plus.
Merci, Mme Thériault. Bonne journée.
Merci. Bonne journée.
Lise Thériault, donc, qui est ancienne ministre du Travail puis députée de l'opposition. Alors, on verra quelle firme sera mandatée, puis est-ce qu'on va poser les bonnes questions. Mais, je vous le dis, là, les deux syndicats ont cette torieuse réputation. D'abord, la FTQ Construction d'être un peu de l'État dans l'État, là, puis je me souviens de la première entrevue avec le président M. Boyer, là, c'était pas trop clair, là, puis Michel Arsenault, quand on y parlait de la FTQ Construction, ben là, écoute, c'est une autre affaire, c'est une affaire à part, ça, c'est bien différent, mais... Ça demeure avec la marque FTQ quand même.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Le ministre Éric Kerr a annoncé hier la création d'un programme. D'abord, c'est un projet pilote, mais essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est d'offrir des montants d'argent à des hackers pour aller tester la sécurité informatique des différents sites, différents réseaux du gouvernement du Québec. Donc, de rehausser la sécurité, détecter les failles, peut-être même faire des suggestions en termes de correctifs. Tout ça pour éviter que des brèches soient créées, que des failles donc existent et que ça permet à des gens mal intentionnés d'aller percer comme ça les plateformes des différents ministères. J'en parle avec Patrick Mathieu, qui est cofondateur du Hackfest et expert en sécurité informatique. Patrick Mathieu, bonjour.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'offrir, appelons ça, des primes à des hackers pour trouver les failles dans le système?
Bien, c'était le temps, en fait. Là, je veux dire, la plupart des autres gouvernements hors du Canada participent déjà à ça depuis plusieurs années, autant les États-Unis, la Maison-Blanche, leur armée qu'en Europe aussi. Là. Je pense que c'est une très bonne initiative. Ça va aider... une couche de plus à trouver des problématiques là au niveau des infrastructures du gouvernement, de leur application, pour sécuriser nos données.
Là, j'ai compris qu'il y avait comme une espèce d'échelle. Là. Selon la gravité du problème détecté, ça peut aller de quelques dizaines de dollars, mais si c'est majeur, ça peut même rapporter, dit-on, jusqu'à 7 500.
Oui, exact. En fait, le concept de ces plateformes de bug bounty, là, de trouver des problèmes et recevoir de l'argent... c'est basé sur la criticité du problème qui est trouvé. Donc, quand on trouve quelque chose qui est de moindre importance, mais qui doivent corriger, c'est 50 $. Si c'est une importance plus grande, c'est 150, 300, 700 et 1500. Mais quand c'est vraiment critique, admettons qu'on a accès à une base de données complète, là, citoyenne, ou avoir accès à la section administrative du site web, ce qu'on devrait pas, ça peut aller jusqu'à 7 500.
Ils vont faire une farce plate, mais pensez-vous qu'ils vont me donner 7 500 si je leur dis que la mise à jour de leur système, c'est important?
Oui, mais ça fait plus qu'une dizaine d'années qu'on leur dit, puis j'ai pas reçu l'argent, donc malheureusement, je pense pas.
Non, mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'aberrant. C'est, je sais que dans plusieurs ministères, il n'y a pas eu de mise à jour des logiciels depuis des années. Vous venez de le dire vous-même, c'est comme si vous prenez votre téléphone intelligent, vous faites aucune mise à jour, votre ordinateur pareil, puis là, après ça, vous êtes étonné de devenir vulnérable. Vous l'avez remarqué, exact, qu'il y a encore des systèmes qui n'ont pas été mis à jour, là?
Non, tout à fait, mais il faut séparer ça en deux pour ce programme-là. Dans ce programme-là, il n'inclut pas ces choses-là parce que c'est principalement leur nouvelle application ou certaines existantes qui veulent aller vérifier l'information. Mais de l'autre côté, l'année passée, si vous en rappelez, ils ont aussi sorti le programme de divulgation de vulnérabilité où ce que si on trouve une vulnérabilité sur un système qui est là depuis 20 ans, justement, on peut aller leur dire. Mais ça, il n'y a pas d'argent en lien. Mais oui, c'est un problème parce que les criminels ou les autres pays qui veulent rentrer, ils vont y aller via la porte la plus facile. Fait que, tu sais, s'il y a un manque de détection d'attaque ou des systèmes qui sont pas mis à jour depuis une dizaine d'années, c'est sûr qu'ils vont passer par là versus chercher des problèmes sur des systèmes qui viennent juste d'être créés, là.
Avez-vous l'impression qu'on va en trouver beaucoup?
Je pense que oui. Ça dépend des systèmes parce que malheureusement, oui puis non, dans le sens que présentement, il y a environ 4-5 sites web qui sont disponibles dans le programme pour recevoir de l'argent. Donc, ce n'est pas de dire que tous les sites web du gouvernement sont inclus parce que ça équivalerait à environ 5 000, voire 10 000 sites web. Fait que là, on est environ à 5. Donc, c'est sûr que la portée du programme est très petite. La possibilité de trouver des problèmes est évidemment un petit peu plus petite, mais c'est certain qu'il va y avoir des choses qui vont sortir, voir si c'est pas déjà le cas depuis 24 heures.
Merci, M. Mathieu. Toujours intéressant. Bonne journée.
Merci. Bonjour.
Au revoir. Patrick Mathieu est le cofondateur de Hackfest et expert en sécurité informatique. Mais c'est pas des farces. C'est quand je vous dis que le gouvernement, dans certains cas, n'a pas fait de mise à jour de logiciels. Je veux dire, depuis des années, c'est comme une aberration, mais malheureusement, c'est le cas.
C'est 23.